Bon dimanche, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, réglez vos montres, il est 13h. Début d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute des programmes d'IDFM Radio et bon appétit si vous êtes encore à table et en famille. Ici c'est Franck, et oui, je n'avais pas disparu, je n'étais pas loin, j'étais juste dans la pièce à côté. Mais pourquoi il n'y a pas eu votre émission favorite À toi les étoiles? Eh bien pour tout vous dire, j'ai eu un problème informatique assez conséquent qui m'a bloqué pendant plusieurs semaines. Et par conséquent, l'émission avec Roland Lehoucq n'a pas pu avoir lieu. Elle n'est pas annulée, elle est juste reportée. Donc notez dès maintenant dans vos agendas, rendez-vous le dimanche 19 mai 2024 de 13h à 14h où je recevrai Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Nous parlerons de son ouvrage « Enquête scientifique au pays d'Hergé », une émission qui promet d'être passionnante. Et en ce mois d'avril 2024, eh bien vous allez retrouver votre émission à toi les étoiles favorite, avec exceptionnellement aujourd'hui une rediffusion. Et parmi les 216 émissions qui ont eu lieu depuis bientôt 20 ans, il y a de quoi faire. Nous allons remonter 16 ans en arrière. Nous allons revenir au 21 mai 2008. Et je vous propose d'écouter ou de réécouter la 42e émission. Ce jour-là, je recevais Laurent Lavedère, photographe. Il venait nous parler de son ouvrage « Le ciel, un jardin vu de la Terre ». Ballet des planètes, fourmillement d'étoiles, voies lactées, pluie de météorites, arc-en-ciel, halo, éclipse, etc. La voûte céleste est un jardin féerique qui regorge de phénomènes lumineux visibles à l'œil nu. Chacun peut profiter de ces merveilles de jour comme de nuit sans recourir aux puissants télescopes des observatoires ou aux instruments embarqués à bord de satellites, à condition de savoir où et dans quelles conditions les contempler. Cet ouvrage propose une passionnante visite guidée de notre ciel, ainsi que toutes les clés pour l'observer et le photographier. Il est illustré d'extraordinaires images réalisées pour l'essentiel avec un simple appareil photo numérique par Laurent Lavedère, qui nous livre ses conseils d'astronome amateur et ses secrets de prise de vue. Je vous laisse avec cette rediffusion, bonne écoute et n'oubliez pas, rendez-vous le dimanche 19 mai à 13h avec Roland Lehoucq où nous parlerons de son ouvrage « Enquête scientifique au pays d'Hergé ». Bon après-midi.
Et nous devons normalement avoir Monsieur Lavedère au téléphone. Monsieur Lavedère, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes photographe. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter un petit peu dans un premier temps?
Oui, complètement. Alors, j'ai un parcours un petit peu atypique, mais enfin, bon, qui n'a pas de nos jours un parcours atypique. Alors, j'ai une formation scientifique à la base. Hein. J'ai un DEA d'informatique, mais qui a suivi une maîtrise de physique. Suite à ça, j'ai fait rédacteur scientifique dans une start-up de Quimper qui s'appelait Geoman.net. Voilà, puis bon, il y a eu un peu des problèmes. Enfin, il y a eu la fermeture de l'entreprise. Ensuite, je me suis reconverti. J'ai tenté plutôt une reconversion dans l'informatique. Et puis bon, après quelques années à faire un petit peu tout et n'importe quoi, et en étant de plus en plus passionné par la photo et en la pratiquant de plus en plus, j'ai fini par, depuis le mois de janvier, devenir photographe professionnel. Voilà. Mais en même temps, je vais essayer d'assurer une profession d'auteur, quoi, une carrière d'auteur. Si vous voulez, j'essaye de, bon, suite à ce premier livre, j'essaierai d'en sortir d'autres pour essayer de trouver de quoi vivre.
Voilà, exactement, parce que bon, je me suis permis d'emprunter le titre de votre livre pour le thème de cette émission, Le ciel, un jardin vu de la Terre. C'est un livre qui est sorti le 5 avril, c'est ça?
Oui, c'est ça, début avril, il était disponible dans les librairies, oui.
C'est un livre que vous avez fait en collaboration avec Didier Jamais, hein, c'est ça?
Voilà, Didier Jamais, effectivement, qui est quelqu'un qui a collaboré avec Geoman.net à l'époque et qui est, oui, qui est l'éditeur du site cieldeshommes.com. Donc c'est devenu un ami et voilà, quand j'ai eu envie de faire ce livre, de mettre en page mes photos, il m'a proposé de collaborer d'une collaboration et c'est volontiers que j'ai accepté de collaborer avec lui car il a un style style, une plume qui est bien bien meilleure que la mienne. Moi, je suis plutôt à l'aise derrière un boîtier. Lui, c'est avec un stylo, plutôt un clavier en tout cas, qu'il est à l'aise, quoi.
On peut voir sur ce livre justement de multiples photos que vous avez prises. Et alors, on a eu l'occasion de se rencontrer lors de la deuxième Star Mega Star Party, c'est ça si je me trompe pas le
oui,
nom.
Oui, c'est ça, de Trielle sur scène, oui.
Voilà, à Trielle, à l'observatoire de Trielle. Et alors, ce qui m'a vraiment impressionné dans votre livre, c'est que vous prenez des photos et c'est un peu différent de ce que l'on peut voir parce qu'en fait, vous mettez en scène des choses comme par exemple, on peut voir quelqu'un qui est éloigné et qui tend les bras et on voit la lune comme s'il tenait en fait la lune dans ses mains.
Oui, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est une part originale de la photo que je fais. Alors ça, c'est en fait, ça a été inspiré largement par mon amie hein, Sabine Sanier, qui est une infographiste, donc plutôt une artiste. Et c'est elle qui, en discutant avec elle, on s'était dit bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir des photos encore plus originales. Et voilà, et on s'est lancé dans ce genre de mise en scène, où simplement, effectivement, en alignant le personnage, donc Sabine, avec la lune, on s'amuse à faire des mises en scène, des interactions entre les personnages et les objets célestes, puisque généralement les objets célestes sont célestes, donc inaccessibles, et là justement on s'amuse à faire en sorte que le personnage puisse le toucher, l'attraper avec un lasso, le soulever avec ses pieds, etc. Voilà, donc on fait ça surtout avec la lune parce que c'est le sujet qui s'y prête le mieux, quoi. Les autres astres, ça va être, ce seront des choses par exemple trop sombres qui ne permettront pas donc de faire des poses faisables, quoi. Voilà, donc la lune c'est parfait pour ça. En plus, bon, c'est sympa, ça permet de faire des photos assez originales. Oui.
On peut voir aussi, comme vous avez dit, attraper la lune au lasso, etc. Alors, j'imagine qu'on n'y arrive pas du premier coup.
Disons que on y arrive, mais il faut faire. Il y a pas mal de le rush. Enfin, il y a pas mal de pertes, quoi. Sur une séance photo que je vais faire lors d'un lever de pleine lune, je vais faire facilement une centaine de photos, et là-dessus, je vais en conserver 4 à 5, quoi, qui seront bien. Bon, il y en a certaines qui sont redondantes, mais il y a pas mal aussi de choses ratées parce que le calage se fait quand même précisément, hein. Quand on travaille avec des focales assez importantes, c'est en focale résultante de l'ordre de 450 à 600 mm. Il faut que le personnage pose ses pieds, par exemple, au bord de la lune, avec une précision de 2 à 3 cm, quoi. Voilà. En plus de ça, bon, il y a peut-être les fois où le personnage a bougé, les fois où on s'aperçoit que je sais pas, le bras est trop, la main est pas bien positionnée, tout ça. Donc voilà, beaucoup de photos, beaucoup de prises de vue pour arriver finalement à trouver quelques photos qui valent la peine d'être mises en ligne.
Et qui sont vraiment excellents. Alors on peut donner d'ailleurs l'adresse tout de suite pour nos auditeurs, pour qu'ils aillent y jeter un œil.
Oui. Alors l'adresse du site internet, c'est pixhaven. Alors ça s'écrit pixhaven.net. Voilà, ouais. Pixhaven. Donc ce soit le paradis des images ou les images du ciel. En fait, c'est voilà un titre qui est à double sens. Voilà. Ça c'est mon site internet consacré aux images du ciel. À côté de ça, j'ai un autre site internet à mon nom. Donc c'est laurentlavedere.com, qui est mon site professionnel, donc de photos, disons plus classiques, quoi, de reportages.
Exactement, oui, voilà. Donc nous on va plutôt s'intéresser au niveau de l'astronomie. À quel moment vous avez commencé à faire de l'astrophotographie en fait, puisque je crois que c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, c'est ça, c'est le titre, le nom qui est associé à ça. Alors l'astrophotographie, j'ai dû commencer en 1986, je crois, ou 87, ça c'est la date à laquelle remontent mes premières photos. J'ai commencé l'astronomie en fait quelques mois avant ces dates-là. Donc j'ai commencé par la comète de Halley. Enfin, j'ai commencé par pratiquer l'astronomie dans mon collège. Il y avait un club d'astronomie animé par Martine Semande, le club des Pulsars. Et j'avais un ami, Florent Bailleul, enfin j'ai toujours un ami, Florent Bailleul, qui est le premier à m'avoir initié à la photo. Hein. Voilà, il avait son père travaillait chez Kodak, et en fait, il avait un petit labo photo, donc j'ai pu commencer à faire des premiers clichés noir et blanc. Voilà, donc à l'époque, ça remonte à 1987 environ, quoi.
Et donc ensuite, et ben, petit à petit, bon, on commence, on balbutie, on fait des bêtises, et puis après, au fur et à mesure, on se professionnalise, on fait de splendides clichés.
Voilà, alors on balbutie effectivement. Surtout ce qu'on fait, c'est que oui, on fait aussi pas mal, effectivement, pas mal de ratés. Mais ce qu'on fait surtout au début, c'est comme les autres, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire que bon, le travail, on va photographier les choses que photographient les autres, hein, la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède, par exemple, la Voie lactée, des choses qui n'étaient pas très originales encore à l'époque, mais il faut dire aussi qu'à l'époque le matériel n'était pas celui de maintenant, et maintenant on peut se permettre de faire des choses vraiment vraiment facilement, quoi. Voilà. Mais donc au début, en effet, on fait des choses, on s'aperçoit des contraintes que imposées par le ciel, hein, puisqu'on a deux problèmes. C'est d'une part, les objets sont relativement faibles, ils sont vraiment même souvent très très sombres, donc il faut des temps de pose assez longs. Mais le problème en même temps, c'est que le ciel tourne, enfin c'est la Terre qui tourne sur elle-même, mais donc qui donne l'impression que c'est le ciel qui est entraîné autour de la Terre. Et donc quand on fait une pose un petit peu longue, eh bien les étoiles vont commencer à faire des défilés, quoi, c'est-à-dire à dessiner des petits arcs de cercle. Donc ça fait que on a cette contrainte de devoir faire des photos, photographier des choses sombres avec des temps de pose relativement courts, à moins d'utiliser une montée équatoriale qui, dans ce cas-là, permet de suivre les étoiles. Et dans ce cas-là, on s'affranchit, disons, du problème de la rotation de la Terre, quoi.
Exactement. Ouais. Parmi toutes les photos que vous avez prises jusqu'à présent, quel est votre meilleur souvenir?
Oh, le meilleur souvenir, c'est difficile. Il y a une photo que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup, parce qu'en fait, ça, je m'aperçois aussi que au fil du temps, une photo que j'aimais beaucoup, je finis par l'aimer moins, peut-être à force de trop la voir. Donc c'était une photo d'un joli croissant de lune pris au pic du Midi en 1995. C'est à peu près le moment, voilà, c'est un moment où je faisais pas mal encore de photos, mais là encore des photos plus des sujets, c'est-à-dire vraiment je cadrais serré autour d'une nébuleuse, d'une galaxie ou de la lune. J'allais pas encore trop chercher les paysages qu'il y avait autour, quoi. Mais donc c'est cette photo-là, c'est un croissant de lune avec la lumière cendrée, c'est-à-dire c'est la partie de la lune qui normalement devrait être sombre, mais qui en fait est éclairée par rétroéclairage par la Terre. Et par devant cette lune, ce croissant de lune et cette lumière cendrée, il y a un voile de nuages qui est assez joli, donc il y a une ambiance orangée, et c'est une photo que j'aimais beaucoup. Je l'aime un petit peu moins maintenant parce que mes goûts ont évolué, notamment vers le bruit. J'ai tendance à ne pas trop aimer les photos qui ont trop de bruit, trop de grain. Voilà. Enfin, voilà. Genre, j'aime bien ça à la limite en photo normale pour du noir et blanc, mais pour de la photo astronomique, je préfère une image qui soit relativement lisse, quoi, exempte de bruit.
Voilà, donc on explique pour nos auditeurs que le bruit, justement, c'est des phénomènes, des perturbations sur la photo.
Oui, en fait, c'est l'équivalent du grain quand on utilisait jadis, hein, des photos, des pellicules à haute sensibilité. Voilà. D'accord. Donc ça va rajouter une sorte de détail, comme s'il y avait une sorte, comme si tout ce qu'on photographiait était en crépi, vous voyez.
Oui, tout à fait, oui. Alors on a des premières réactions d'auditeurs qui sont allés voir sur votre site, des réactions qui tombent là sous mes yeux. Oui, ils parlent justement qu'on peut voir des photos sur la Lune, notamment des levées de Lune. Il y en a une certaine où on voit depuis le moment où elle sort, où elle se lève en fait, et puis jusqu'au milieu du ciel, en ligne droite. Et une personne donc demandait où est-ce que vous avez pris exactement cette photo.
Non, je pense que c'est une photo, oui, où on a plusieurs lunes côte à côte, c'est ça, donc qui dessine
une au-dessus de l'autre. Alors, ça, en fait.
L'une au-dessus de l'autre, ou alors attendez, parce que ça va être. Le problème, c'est que j'ai 1100 photos en ce moment sur le site, donc il faut que je puisse faire la distinction. Mais il y en a une que j'ai prise de ce type-là qui a été faite depuis le Ménésum, et sinon, si c'est l'autre à laquelle je pense, c'est une photo qui a été prise à la torche. La plupart des photos que je prends, forcément, ce sont des photos que je prends dans le coin, hein, donc en Finistère Sud, hein, j'habite Quimper, et donc c'est plutôt voilà des choses prises souvent en bord de mer, parce que ça permet d'avoir des paysages qui sont très 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 jolis, quoi.
Donc en fait, vous avez superposé les photos l'une dessus l'autre, parce que voilà, pour l'auditeur a précisé sa question, normalement en France, la Lune ne se lève pas en ligne droite comme ça.
Ah oui, alors je vois de quelle photo il s'agit, effectivement c'est une photo que j'avais prise, oui c'est ça, quasiment au moment du solstice d'été, oui. Alors dans ce cas-là, c'était le voilà, là c'est vraiment effectivement un montage à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai photographié la Lune pendant, je crois, quelque chose comme une heure, donc j'ai fait des pauses consécutives toutes les minutes, je crois, et ensuite j'ai assemblé les photos les unes au-dessus des autres en mettant celle qui est le plus bas sur la photo, c'est celle qui était le plus bas dans le ciel, donc au moment où elle venait de se lever, et en haut, en fait, on voit, en montant, quoi, on voit la Lune qui devient de plus en plus ronde, puisqu'au début elle est très aplatie par les effets de l'atmosphère, et puis en même temps, dans le même temps, elle va devenir plus lumineuse. Alors ça, j'ai atténué l'augmentation de luminosité, sinon on aurait eu une Lune qui aurait été complètement saturée, complètement cramée, quoi, vraiment surexposée. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que la Lune, qui au début est très rouge, et très rouge, très peu détaillée et aplatie, bien, elle finit par devenir ronde, plus détaillée et plus blanche. Voilà. Donc ça, c'est réellement un montage. Alors, dans mon travail, j'essaye au maximum d'éviter les montages. Enfin, comment dire, soit je fais des montages, et dans ce cas-là, ça se voit, c'est bien le cas, effectivement, l'auditeur l'ordinateur a finement remarqué qu'en effet, il n'y a qu'à l'équateur, en gros, qu'on peut voir la Lune se lever verticalement. Mais donc, bon, dans ce cas-là, effectivement, je précise ça dans les commentaires. Mais sinon, les autres photos que je fais, je me permets jamais de faire, par exemple, de photographier la Lune et de la rajouter avec, par devant, je sais pas, une église, quoi. Ça, c'est quelque chose que c'est très facile à faire avec Photoshop. Par exemple, les photos où mon ami attrape la Lune au lasso, c'est quelque chose que j'aurais pu faire même beaucoup mieux avec Photoshop. Mais bon, ça, c'est une question d'authenticité. On peut se permettre de faire tout ce qu'on veut en faisant des montages, mais justement, je me refuse à faire ce genre de choses-là, quoi. J'essaie de faire des photos qui, du coup, ne sont pas parfaites, mais qui ont au moins le bon goût d'être authentiques.
Exactement.
Le bon vrai goût de l'authentique, comme dirait Jean-Pierre Coff. Voilà.
Ouais. On va s'interrompre le temps d'une pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission À toi les étoiles. Christophe Maé arrive tout de suite dans la radio avec Belle Demoiselle. C'est ce qu'on écoute tout de suite. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Vous écoutez IDFM Radio et c'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois de 13h à 14h. Vous écoutez aujourd'hui la rediffusion d'une émission qui a été diffusée il y a de cela 16 ans, c'était le 21 mai 2008. L'invité était Laurent Lavedère, photographe, et le thème Le ciel, un jardin vu de la terre, nom de l'ouvrage que Laurent Lavedère venait de sortir justement à l'époque. Bonne écoute.
Nous parlions tout à l'heure de votre site et puis il y a des questions qui sont arrivées pendant la pause musicale. On peut voir sur votre site qui a l'adresse pic7.net le rayon vert. Alors il y a un auditeur qui se demande ce qu'est le rayon vert et aimerait avoir plus d'explications là-dessus.
Alors le rayon vert, oui. Le rayon vert, effectivement, je vous disais en antenne tout à l'heure que c'est un phénomène que les gens connaissent, enfin ils connaissent le nom, en tout cas le nom de rayon vert, c'est relativement connu, ça a été utilisé récemment d'ailleurs, il y a eu une espèce de sale scène qui a été faite dans le dernier, c'était quoi ce film là, Pirates des Caraïbes, voilà, où il y a une histoire avec le rayon vert, mais enfin c'est une sorte d'amalgame, quelque chose, c'est du n'importe quoi. Et donc le rayon vert, ça existe bien, il y a un roman de Jules Verne d'ailleurs qui porte ce nom-là, et c'est quelque chose en fait qui apparaît au coucher ou au lever du soleil. Alors faut imaginer que l'atmosphère est dense au niveau du sol et elle est de plus en plus ténue à mesure qu'on s'élève en altitude, et donc elle va agir sur la lumière comme un prisme. Et donc le soleil, lorsqu'il se couche, sa lumière va être décomposée dans toutes les couleurs, hein, c'est-à-dire le rouge sera plutôt vers le bas et le bleu sera vers le haut, et donc c'est comme si vous aviez une infinité de disques se superposant les uns sur les autres, mais avec quand même le disque rouge qui serait le plus bas et le disque bleu qui serait un peu plus le plus haut. Alors le problème du bleu, c'est que étant donné que le ciel est bleu, le ciel est bleu parce qu'il y a une très forte diffusion du bleu par rapport aux autres couleurs de la lumière blanche. Et donc le bleu généralement est absent de la lumière du soleil lorsqu'il se couche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est orange. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc du coup le petit disque bleu, on le voit pas. Par contre le disque vert, on a parfois la chance de le voir. Alors surtout si on utilise une grande focale, c'est-à-dire par exemple des jumelles ou une petite lunette astronomique, à condition évidemment que le soleil ne soit pas éblouissant, sinon on risque de s'abîmer la rétine, ce serait dommage. Donc dans ce cas-là, on observe le soleil à fort grossissement et on voit donc un liseré vert qui surmonte le soleil, enfin qui termine la partie supérieure du soleil. C'est donc en fait les disques de couleur verdâtre qui sont les plus hauts, hein, que l'on voit. Et au moment donc où le soleil va disparaître quasiment entièrement, c'est-à-dire où il ne restera plus que cet infime petit liseré eh bien au moment où le seul liseré vert sera visible, eh bien le soleil va émettre une lumière plutôt verte, quoi. Alors le terme de les Anglais utilisent le terme de c'est green flash, ils appellent ça green flash, donc ce serait le flash vert. Bon, on est loin d'un flash, hein. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont représenté dans Pirates des Caraïbes. C'est pas un flash, c'est pas plus brillant que le reste du soleil puisque ce n'est qu'une petite partie du soleil. Voilà. Mais donc, dans les meilleures conditions, on peut voir apparaître, donc pendant maximum 1 à 2 secondes, les derniers rayons du soleil pourront paraître verts. Mais alors là encore, parce que c'est jamais simple, enfin, c'est jamais simple, si c'est simple quand on explique, mais le soleil attendant, notre œil, pardon, a tendance, quand il voit un coucher de soleil, comme il voit un excès de rouge et d'orange dans les scènes qu'il observe, il va avoir tendance à régler sa balance des blancs. Et en fait, il va avoir tendance à verdir et à bleuir plutôt les choses, quoi. Donc, souvent, à l'œil nu, vous aurez tendance à voir un rayon vert, là où, en réalité, vous n'aurez qu'un rayon orangé, voire jaune, quoi. Voilà. Je m'aperçois, moi, de ça assez souvent quand je photographie, donc quand je suis derrière le viseur de mon appareil photo. Parfois, je crois voir des rayons bleus, et je me dis, ouais, super, j'ai le rayon bleu. Et en fait, la plupart du temps, c'est juste un rayon qui est bien vert et qui me paraît bleu parce que mon œil s'est habitué à l'orange et donc, du coup, a eu tendance à bleuir l'image, quoi, vous voyez. Voilà. Mmh. Donc, par contre, l'appareil photo, lui, ne se trompe pas. Oui. Voilà. Voilà tout ce qu'il en dit du rayon vert.
J'étais en train d'observer pendant que vous donniez les explications et je vois une chose sur les photos que vous prenez, et il y a toujours un premier plan.
Oui, voilà, alors c'est ça. Ça, c'est effectivement quelque chose que j'essaye de... Alors, au début, j'avais même d'ailleurs un petit peu des complexes par rapport aux autres astrophotographes, parce que les astrophotographes, eux, utilisent généralement donc des focales relativement longues qui permettent d'isoler en détail des objets. Alors, quand je parle d'objets, ça peut être la Lune, une planète, ou une nébuleuse, une galaxie, quoi. Enfin, c'est ce qu'on appelle des objets dans le ciel, voilà. Et quand on isole une galaxie, ou la pleine lune, c'est que on va faire on peut avoir affaire à des grossissements très importants. La luminosité aussi, du coup, ben, on expose suffisamment la photo pour qu'on puisse voir bien l'objet. Du coup, quand le grand public voit la pleine lune ou une galaxie en gros plan, à la limite, il sait même pas si la galaxie, elle est plus brillante ou moins brillante elle paraît aussi brillante que la pleine lune, quoi. Or, il n'en est rien. Alors, donc, moi, ce que je préfère, c'est faire de la photo que j'appelle contextuelle. C'est comme dans Windows, quand vous utilisez le clic droit de la souris quelque part, vous avez ce qu'on appelle le menu contextuel, donc quelque chose qui dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Et donc, dans ce que je nomme photo contextuelle, eh bien, je vais photographier les astres du ciel, les objets du ciel, mais en y ajoutant un premier plan. Donc, ça permet deux choses. D'une part, ça permet de se rendre compte plus facilement de l'échelle des choses. Quand je photographie, par exemple, la pleine lune à côté d'une maison qui est lointaine, eh bien, on arrive à peu près à se représenter les choses, enfin, maison lointaine ou pas. Alors, c'est ça le problème, en limite, c'est que si la maison est très loin, elle pourra avoir l'air très petite, alors que si elle est proche, elle peut avoir l'air grosse, alors que la lune, elle continuera à avoir toujours le même diamètre. Voilà. Mais en tout cas, ça permet un petit peu mieux de se figurer le diamètre véritable des objets que je photographie, et puis aussi de se figurer un peu plus facilement la luminosité. Hein, quand je photographie la pleine lune, souvent elle est plus brillante que le paysage. Par contre, si je photographie une nébuleuse, la nébuleuse elle sera à la limite à peine visible. Pareil, la Voie lactée, quand je photographie la Voie lactée, il faut que le paysage en avant-plan soit très sombre pour que la Voie lactée ne soit pas, que la Voie lactée ne paraisse pas beaucoup, beaucoup trop faible, quoi. Voilà. Donc c'est effectivement le genre de choses que je fais. La photo contextuelle, donc, me permet en plus de ça d'avoir plus de liberté dans la créativité, quoi. Quand on photographie la pleine lune, vous photographiez par exemple le cratère Clavius sur la lune, bon, vous avez une photo qui peut être certes exceptionnelle au niveau résolution, mais bon, vous n'avez pas tellement de créativité là-dedans, quoi. Ça devient juste de la technique pure. Et bon, la technique pure qu'il faut quand même arriver, hein, c'est pas, je n'amoindris pas les qualités des gens qui peuvent faire ça. Bon, de la technique pure, en plus de ça, il faut dans ce cas-là du matériel généralement quand même assez onéreux pour pouvoir avoir les meilleures photos. Bon, quand on utilise un téléobjectif de pas très grande focale ou des objectifs même carrément en grand angle, eh bien là, on peut, dans ce cas-là, soigner les cadrages, donc aller mettre dans le premier plan un arbre avec, par exemple, une conjonction Lune-Vénus qui sera sur le côté. Vous voyez, vous pouvez faire vraiment un cadrage, composer les couleurs aussi en y intégrant peut-être éventuellement des nuages, la lumière du crépuscule. Donc, on a vraiment beaucoup plus de liberté quand on photographie, quand on fait de la photo contextuelle, quoi. C'est pour ça que je me suis mis là-dedans, donc pour la créativité, mais aussi pour une question tout simplement de moyens. Je n'avais pas les moyens, je ne les ai toujours pas d'ailleurs, de m'acheter de gros télescopes avec des grosses montures, etc., et du gros matériel derrière. Donc voilà, j'essaye avec quelques milliers d'euros quand même, hein, à la longue, enfin avec tous les objectifs que j'ai en ma possession, mais j'essaye de faire donc des choses qui sont effectivement plus à la portée de tout un chacun, quoi. C'est ce qu'on retrouve dans mon livre, hein. Il n'y a pas de secret, à la fin du livre, vous retrouverez dans les dernières pages les paramètres de prise de vue. Donc sont indiqués pour chaque photo de chaque page, la focale utilisée, le boîtier utilisé, l'objectif, le diaphragme, le temps de pose, la sensibilité, etc. Enfin, tous ces détails-là, y compris d'ailleurs le lieu de prise de vue et la date. Voilà. Vous avez toutes ces choses-là pour que les gens qui aimeraient refaire le même genre de photo à partir de mon livre aient tous les éléments en main pour pouvoir le faire.
J'ai une question de Girard qui demande, je n'ai vu aucune photo d'éclipse, que ce soit de lune ou de soleil. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que vous n'êtes pas un chasseur?
Ça, c'est parce qu'il y a... Alors, non, je suis pas chasseur de... je suis chasseur... Enfin, je peux être chasseur d'éclipse. Le problème, à la limite, des chasseurs d'éclipse, c'est qu'il faut pouvoir... Enfin, c'est que ça demande des moyens, parce que, bon, les éclipses de lune, elles sont accessibles généralement, mais les éclipses de soleil, il faut aller les chercher, quoi. Ouais. Voilà. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas pu avoir observé énormément d'éclipses de soleil. J'en ai vu une quand même au Mexique, en 91, qui était très longue. Elle durait 6 minutes 56 secondes, je crois, donc vraiment une longue éclipse. J'ai raté celle en 99. J'étais au bon endroit, mais pas vraiment au bon endroit, puisqu'il y avait des nuages là où j'étais, en Lorraine. Aïe. Et ensuite, j'ai refait celle de Turquie. Donc, c'était il y a deux ans en Turquie. Avant ça, j'avais vu aussi l'éclipse annulaire de lune en Espagne. Voilà. Donc, à mon actif, sur les quatre éclipses, j'en ai observé, deux totales et une annulaire. Voilà. Donc, il y a quand même une galerie qui est consacrée aux éclipses. Dans ce cas-là, sur mon site, c'est par rapport à toutes les galeries qui sont présentées à partir de la homepage. C'est la quatrième ligne, celle de gauche. Ça s'appelle éclipse, tout simplement. Et donc, là-dedans, vous trouverez des éclipses de soleil et des éclipses de lune. D'ailleurs, avec les premières, ce sont des éclipses de lune, notamment celle du 21 février 2008, qui n'a pas été facile parce que les nuages étaient assez abondants sur toute la France. Nous, on a eu par ici une petite éclaircie quand même. On a pu voir à peu près le début, mais ça s'est pas fait dans de très bonnes conditions. Mmh. Voilà.
Tout à fait.
Donc oui, il y a des photos d'éclipses sur le site. Rassurez-vous.
On va continuer, Monsieur Lavedère, toujours en parlant de vos photos. Alors, il y en a qui sont quand même étonnés en voyant vos photos de certaines qualités d'image. Alors là, c'est un petit peu technique. En fait, ils demandaient quel genre de pellicule vous utilisez.
Alors, pellicule, ça, c'est un mot que j'utilise plus, c'est de l'ancien français. C'est de l'ancien français, c'est comme les francs, les choses comme ça, c'est un truc qu'on n'utilise plus. Alors, pellicule, pourquoi j'utilise plus de pellicule? Bon, principalement, c'est le problème de sensibilité, quoi. Voilà, mais bon, il n'y a pas que ça, hein, voilà. C'est-à-dire que quand vous travaillez à l'époque avec une pellicule à 800 ISO, 800 ASA, quoi, vous aviez une pellicule qui avait un grain important. Donc vraiment, ce que je parle, l'équivalent du bruit, donc une image qui était vraiment pleine de petits grains de colorés dedans, donc une image qui n'était pas facile. Là, enfin, qui n'était pas évidente. En plus de ça, la pellicule souffre d'un problème inhérent au grain d'argent, c'est que il y a ce qu'on appelle la réciprocité, c'est l'effet Schwarzschild, un truc comme ça, enfin, un nom pas de chez nous. Et ces pellicules-là, donc, ont tendance, en fait, la sensibilité a tendance à diminuer très fortement au fil du temps. C'est-à-dire, si vous faites une pause de 10 minutes, pendant les premières secondes, la pellicule va bien faire 800 ASA, mais au bout de quelques secondes, elle va tomber à 50 ASA, puis voire 10 ASA à la fin. Voilà. Donc, elles ont vraiment un problème de comportement dans les sensibilités. Avec un capteur numérique, il en va tout autrement. La sensibilité, qui est par exemple de 800 ISO, va être constante tout au long de la pose. Et puis, si on compare un 800 ISO d'une pellicule et 800 ISO d'un appareil numérique, on s'aperçoit, si c'est un appareil numérique moderne, un boîtier réflexe, parce que les compacts, eux, ont beaucoup, beaucoup plus de mal à se comporter convenablement dans le bruit, eh bien, vous prenez un 400D, par exemple, un Canon 400D ou 450D à 800 ISO, le bruit est à peine perceptible, c'est-à-dire que sur les zones, sur les aplats de couleurs ou sur une zone du ciel par exemple qui n'aurait pas de détails, vous verrez effectivement un ciel relativement lisse, sans trop de grains. Bon, en plus de ça, l'avantage du capteur numérique, c'est que vous recevez l'image sur votre ordinateur directement sortie du boîtier, donc vous avez après toute latitude pour travailler. Parce que là encore, à l'époque, avec la pellicule, vous donniez votre pellicule à un photographe qui faisait le tirage, mais il le faisait selon ce qu'il avait l'habitude de faire, et donc c'était pas forcément le résultat que vous vouliez. Après, s'il fallait numériser le négatif, vous perdiez beaucoup de qualité en numérisant, parce que les scanners ont du mal à aller chercher des détails dans les zones sombres. Donc voilà, on était vraiment très très bridés. Avec le capteur numérique, pas de problème, on accède vraiment directement à la partition, quoi, hein, la partition de l'appareil photo numérique, enfin, si on compare ça à la musique. Et après, avec ça, effectivement, on peut interpréter le morceau comme on a envie, quoi. Voilà. Intervenir sur les couleurs, par exemple sur la balance des blancs, pour faire des couchers de soleil qui seront plus ou moins orangés ou légèrement bleutés. Enfin voilà, on peut vraiment faire un tas de choses dessus. Après, il y a des logiciels formidables tels que DX Optics, par exemple. C'est un logiciel que j'utilise systématiquement sur toutes mes photos, qui permet donc d'une part d'enlever le bruit qui est pas très présent, mais qui peut l'être plus ou moins en sensibilité. Donc là, il va m'enlever le bruit, donc j'aurai une image qui sera plus lisse. Il va augmenter l'accentuation, c'est-à-dire faire en sorte que les images aient l'air plus nettes. Donc sur les étoiles, c'est tout à fait pratique, parce que j'ai des étoiles qui sont beaucoup plus piquées, beaucoup plus qui donnent l'impression qu'elles sont plus nettes. Ensuite, il va enlever les bords sombres de l'objectif, parce que quand on utilise un objectif à pleine ouverture, c'est-à-dire en ouvrant le diaphragme au maximum, les bords ont généralement sont plus sombres, hein, c'est le vignettage. Donc là, il va gommer le vignettage. Enfin voilà, il fait un tas de choses, de manipulations sur l'image, qui fait qu'à la fin, l'image, elle est plus exploitable scientifiquement, mais ça, c'est vraiment pas mon problème, parce que je fais pas des photos pour le côté scientifique, je fais des photos plus par rapport à un témoignage, enfin, ce que je cherche, c'est un témoignage qui rend sur la photo le bonheur que j'ai eu à être sous les étoiles, quoi. Parce qu'effectivement, avant ça, donc, je parle beaucoup de technique, mais être sous les étoiles avec l'appareil photo ou même avec son ami, c'est quand même un grand bonheur. Et donc, ce que j'aime bien, c'est, j'aime bien revenir, comme quand on rentre de vacances avec ses photos de vacances. Mais voilà, moi, quand je rentre de mes virées nocturnes, je rentre avec mes souvenirs sur pellicule, quoi. Et j'essaye de les retranscrire au mieux pour partager ce bonheur avec les gens. Je suis tellement philanthrope.
Et il y a David qui dit, David, un internaute, qui dit en plus, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. C'est vrai, il suffit de lever les yeux.
Oui.
Et voilà.
Oui, voilà. Voilà. C'est comme sur mon site, c'est gratuit aussi. Hein. Sur mon site, enfin, si vous voulez évidemment acheter un tirage, mais sinon, la consultation de mon site est évidemment gratuite. Vous pouvez mettre les photos en fond d'écran si elles vous plaisent. Enfin, voilà, c'est vraiment, voilà. C'est le but. Mon but, c'est vraiment de partager les choses avec les gens. Voilà.
Voilà.
De témoigner, d'évangéliser, je dirais.
Oui, on précise aux auditeurs justement qu'il y a, oui, il y a des fonds d'écran, etc., dont on peut se servir, qui sont vraiment magnifiques. On va s'interrompre encore une fois le temps d'une nouvelle pause musicale, et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission À toi les étoiles avec Laurent Lavedère, photographe. Et là, on va écouter Les Enfoirés avec le titre L'amitié. C'est tout de suite sur IDFM.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est IDFM que vous écoutez, et comme tous les troisièmes dimanches de chaque mois, de 13h à 14h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Aujourd'hui, c'est une rediffusion, exceptionnellement. Je vous rediffuse une émission qui a été diffusée il y a de cela 16 ans. C'était le 21 mai 2008. L'invité était Laurent Lavedère, photographe, et le thème était « Le ciel, un jardin vu de la Terre », le nom de l'ouvrage que Laurent Lavedère venait de sortir à l'époque. Bonne écoute!
C'est l'émission À toi les étoiles pendant un petit quart d'heure encore, avec comme invité Laurent Lavedère, photographe. Nous parlons de son ouvrage, et je rappelle, puisqu'on parlait d'internet, qu'on peut nous écouter partout dans le monde sur le www.idfm98.fr. Monsieur Lavedère, j'aimerais qu'on revienne sur votre ouvrage, donc le livre dont le titre est Le ciel, un jardin vue de la Terre. Alors, une question d'une auditrice qui demande qu'est-ce qui vous a inspiré pour le titre ?
Alors, le titre, c'est une déclinaison du livre de Yann Arthus Bertrand, du best-seller mondial, puisque c'est 3 millions d'exemplaires dans son cas, qui s'appelait donc La Terre vue du ciel. Voilà. Alors, La Terre vue du ciel, ça décrivait bien les choses, hein. C'était donc des photos de la Terre prises depuis le ciel. Mmh. Moi, dans mon cas, ben, je crois que c'est un ami qui m'a soufflé le titre là, qui s'est dit, ben tiens, ça pourrait être Le ciel vu de la Terre. Donc, effectivement, ça se prête tout à fait à ça, puisque c'est des photos du ciel prises tout simplement de la Terre, quoi. Le but, c'était pas de faire des photos prises depuis l'espace, parce qu'on a effectivement à la NASA des photos, ou même l'Agence spatiale européenne réalise des photos du ciel depuis des observatoires astronomiques, des observatoires spatio-astronomiques, pardon. Ils font des photos qui sont tout à fait magnifiques. Par contre, ça, voilà, c'est des photos, on n'arrive pas bien à se rendre compte de ce que ça représente la plupart du temps. Alors que, avec nos simples yeux, depuis la Terre, on peut voir des choses formidables, des choses magnifiques. Et donc, c'était le but, c'était que, en étant même depuis la banlieue, la banlieue d'une petite ville, ou à la campagne, au bord d'une plage, voire en ville, même si c'est quand même plus difficile d'observer des choses faibles en ville, mmh. Eh bien, de pouvoir profiter de tout ce qui est gratuit au-dessus de nos têtes, quoi, voilà. Parce que tout ça, c'est du gratuit, effectivement, c'est spectacle de la nature, il n'y a rien à payer. Mmh. Voilà. Donc, le titre s'imposait quasiment de lui-même, voilà.
Exactement, oui. Alors, cet ouvrage, donc, c'est un ouvrage ludique qu'on peut recommander à tout le monde, parce que c'est pas seulement un livre où on y voit des photos, mais il y a aussi des explications, puisque vous avez écrit les textes avec votre camarade Didier Jamais.
Oui, c'est ça, voilà. Donc oui, ce livre, il se veut, c'est un livre pluriel en fait. Hein. Quand j'ai eu l'idée de faire ce livre-là, ça date d'il y a à peu près 2-3 ans. Je me dis tiens, il faudrait qu'un jour je fasse un livre quand même pour mettre en page toutes mes photos. Mais donc j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire et je me disais bon, si je fais qu'un livre de photos, déjà je ne suis pas suffisamment connu pour qu'un éditeur soit intéressé par prendre des photos de Laurent Lavedère, donc il fallait y mettre du contenu. En plus, ça aurait été vraiment dommage de montrer des phénomènes astronomiques sans du tout expliquer ce que c'est. Imaginez, vous voyez la photo d'un rayon vert. Bon, photo d'un rayon vert, il n'y a pas grand chose de moins intéressant que ça, sauf si on sait que c'est un rayon vert, voyez. Donc, je me suis dit, du coup, il faut y rajouter du texte pour expliquer l'origine des phénomènes. Bon, pour ça, on n'a pas de problème parce que Didier Jamais, comme moi, on est rédacteur scientifique, donc, enfin, lui est journaliste scientifique, donc on maîtrise tout à fait ces phénomènes-là, enfin, ces explications. En plus de ça, je me disais, bon, moi, quand je tombe sur un livre avec des photos du ciel pris avec du matériel amateur, j'aime bien savoir comment c'est fait, c'est-à-dire quelle focale est utilisée, quel temps de pose, à quel endroit, etc., ça a été pris. Bon, eh bien, donc je me suis dit, il faut rajouter du coup les paramètres de prise de vue. Tant qu'à faire, autant expliquer aussi aux gens un peu comment faire. Donc vous verrez au début de chaque chapitre, vous avez des conseils photographiques, des conseils photos. Donc comment utiliser, quelle focale utiliser, quelle sensibilité régler, la balance des blancs, etc. sur l'appareil photo pour pouvoir faire ce genre de photo. Alors évidemment, c'est pas un livre sur la photo du ciel, hein, c'est pas comme le livre de Thierry Legault, Astrophotographie. Hein, lui, c'est vraiment consacré uniquement à la prise de vue. Moi, j'ai vraiment des conseils photos assez succincts. De même, il y a des conseils d'observation relativement succincts, mais qui permettent d'expliquer au lecteur dans quelles conditions se placer pour observer les choses, à quel moment observer. Voilà, tout ça, d'ailleurs, c'est repris de façon assez synthétique au début de chaque chapitre. En haut, vous avez est-ce que c'est visible, enfin visibilité et fréquence, pour que le lecteur sache rapidement si le thème qui est traité, si c'est quelque chose qu'il verra fréquemment ou pas, et s'il aura du mal à le voir ou non. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois pédagogique, donc on explique tous les phénomènes qui sont présentés dans l'ouvrage, c'est à la fois beau parce que les photos sont, enfin, je l'espère en tout cas, assez belles et surprenantes parce que les gens n'ont pas l'habitude de les voir, donc ça s'adresse vraiment à tout public, hein, pas qu'aux astronomes amateurs qui eux aussi ont des choses à y apprendre parce que j'y traite pas que de sujets astronomiques, hein, j'y traite aussi de, par exemple, des traînées de condensation des avions. Ça c'est quelque chose que l'on ne voit pas traiter généralement dans les ouvrages parce que c'est considéré souvent comme de la pollution lumineuse, mais quand on commence à être attentif aux traînées de condensation des avions, eh bien on s'aperçoit qu'on peut y voir des choses dedans qui sont pas phénoménales de beauté, mais qui sont quand même tout à fait intéressantes et qui méritent qu'on s'y intéresse. Voilà. De même, il s'est tangé traite des satellites artificiels, comment on peut les voir, qu'est-ce qu'on voit. Voilà, enfin c'est vraiment quelque chose d'assez varié au niveau des thèmes. Donc on cherche à toucher le grand public parce que les gens qui sont curieux de nature, alors curieux de nature au deux sens du terme, hein, gens qui sont naturellement curieux et ceux qui sont curieux par la nature, peuvent là-dedans, enfin, trouver leur bonheur parce qu'ils vont pouvoir toucher à des domaines qui n'ont pas l'habitude auxquels ils ne sont pas habitués parce qu'il n'y a pas de bouquin qui traite le ciel de cette façon-là. Hein, c'est vraiment le ciel, c'est pas que de l'astronomie, c'est le ciel. Donc il y a aussi, par exemple, tout ce qu'on peut voir en plein jour, les arcs-en-ciel, les halos, voilà, enfin, ce genre de choses, quoi.
Voilà, donc on précise bien que c'est pas uniquement de l'astronomie, quoi.
Oh non, loin de là. La couverture, à la limite, fait très astronomique, hein. Voilà. Par contre, si on tourne le bouquin, ben, on retrouve en quatrième de couverture une photo qui est plus onirique, enfin, plus jolie, plus toute simple, en fait, hein. Voilà. On va parler vraiment de choses diverses. En fait, le livre est séparé en cinq parties, hein. Cinq parties distinctes. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vraiment feuilleter le bouquin comme ça, comme on en a envie. On peut vraiment ouvrir à une page quasiment au hasard et puis on tombe dans un chapitre qui est indépendant du reste, quoi. Donc, la première partie, ça concerne les mouvements qu'on observe dans le ciel parce que le ciel peut paraître assez inaccessible au niveau de la compréhension parce qu'on voit des choses, on voit la lune qui se déplace, il y a des phases, il y a le soleil qui se déplace aussi, les saisons qui défilent, etc. Donc j'explique comme ça dans le cours de sept chapitres tout ce qu'on peut voir dans le ciel, les conséquences de la forme elliptique de l'orbite de la Terre ou de l'orbite de la Lune, enfin, toutes ces choses-là. Ensuite, on passe sur un chapitre qui décrit comment l'atmosphère perturbe la vision qu'on a du ciel, puisque tout ce qu'on perçoit de l'univers passe à travers le filtre de l'atmosphère. Donc c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut observer des rayons verts, hein. Sans l'atmosphère, il n'y aurait pas de rayons verts. On peut observer aussi des mirages. Et les mirages, c'est des espèces de flaques brillantes, comme des taches de ciel qu'on voit apparaître sur la route en été quand la route est chauffée par le soleil. Et puis aussi, une question toute simple, c'est pourquoi le ciel est bleu, quoi. Ça, on a tout le temps un ciel bleu sous les yeux, ça nous paraît du coup naturel, donc on oublie de se demander pourquoi il est bleu. Mais voilà, ça aussi, ça a des conséquences. D'ailleurs, si le ciel est bleu, c'est parce que le coucher de soleil est orange et réciproquement, quoi. Voilà, ces deux phénomènes-là sont liés. Après, troisième partie, c'est sur ce qui se passe lorsque la lumière traverse soit des gouttes d'eau, soit des cristaux de glace. Donc, c'est les arcs-en-ciel, les halos, les colonnes lumineuses, et puis aussi les jeux d'ombre, bon, qui sont pas tout à fait la lumière qui traverse même pas du tout la lumière qui traverse des gouttelettes d'eau, mais bon, c'est ce qui se passe lorsque un obstacle s'interpose entre le soleil et nous. Ensuite, la quatrième partie, c'est le ciel et leurs repères. Donc là, je vais décrire différents phénomènes. Enfin, phénomènes ou curiosités, par exemple, donc voilà, les traînées de condensation des avions, les satellites artificiels, l'ombre de la Terre, ça c'est quelque chose aussi que l'ombre de la Terre, on n'imagine pas qu'on est capable de percevoir l'ombre de notre Terre. Bon, on s'en aperçoit un peu plus facilement lorsqu'on observe une éclipse de Lune, mais bon, on peut voir l'éclipse de l'ombre de la Terre se projeter dans l'atmosphère de la Terre. C'est ce qu'on appelle la ceinture de Vénus, c'est quelque chose de, un phénomène que j'adore observer, que je montre dès que j'ai l'occasion à des gens, parce qu'ils n'imaginent pas qu'on puisse voir ce genre de choses-là. Et c'est extrêmement simple à observer. Bon, après, il y a les taches sur le soleil, la lumière zodiacale, la voie lactée. Bon, ça, c'est vraiment donc une description de ce qu'on peut voir dans le ciel, les aurores borales aussi, d'ailleurs, qui sont dans ce chapitre-là. Et puis enfin, en dernière partie, avant les annexes, on a les réponses en images. Donc là, c'est 10 questions que les gens se posent ou qui devraient se poser à la limite. Par exemple, jusqu'où peut-on voir à l'œil nu? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose assez souvent. Mmh. Quand les gens nous voient avec nos gros instruments, ils nous disent, mais là, vous devez voir loin avec ces télescopes. Mmh. Et en fait, c'est pas qu'on voit loin, c'est simplement, c'est si ce qu'on observe est lumineux, on va le voir facilement, même à l'œil nu. Par exemple, c'est le cas de la galaxie d'Andromède, qui est à 2,1 millions d'années-lumière. On peut la voir assez facilement à l'œil nu, alors que certaines étoiles qui sont situées qu'à quelques dizaines d'années-lumière, on n'est même pas capable de les voir, quoi, vraiment. Donc ça dépend de la luminosité intrinsèque et de la distance de l'objet. Voilà. Et puis, les trucs, la Lune est-elle plus grosse à l'horizon? Ça aussi, on a vraiment, on mettrait ses yeux à couper que la pleine Lune est plus grosse lorsqu'elle se lève, alors qu'en réalité, on mesure avec un télescope, elle a exactement le même diamètre, voire même elle est un petit peu plus petite en réalité. Bon. Donc ça, on essaye de tenter d'expliquer, enfin, on y arrive d'ailleurs. Dans le cas de la pleine Lune, c'est plus délicat parce que même les scientifiques ont du mal à expliquer réellement le pourquoi du comment, quoi. Comment ça se fait qu'on voit la pleine Lune en plus grosse, enfin, pourquoi elle nous paraît plus grosse, quoi. Donc, il y en a des questions qui sont quand même plus simples que ça. Après, comment différencier les étoiles des planètes, hein, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est une étoile ou une planète, qu'est-ce que c'est que l'étoile du berger, qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante, le ciel est-il noir et blanc, etc. Quoi, voilà, des questions qui sont chaque fois répondues, enfin, auxquelles on répond par le biais de 2-3 photos. Donc toujours mettre des belles photos en avant, parce que les photos souvent, ben voilà, les photos permettent d'expliquer des phénomènes, de les mettre en exergue.
Alors c'est vrai que effectivement, quand j'ai vu votre livre, et ben c'est là que j'ai appris qu'on pouvait voir l'ombre de la Terre sans attendre justement une éclipse de lune. Ça c'est vraiment pas mal.
Oui, voilà. Alors là, il y a deux possibilités si on veut éviter les éclipses de lune qui se produisent pas très fréquemment. Alors, la plus simple, c'est au coucher du soleil. Lorsque le soleil est couché depuis entre 10 minutes et 20 minutes, voire une demi-heure, vous vous tournez vers l'est, donc à l'opposé du soleil, et vous allez observer une arche gris bleutée, qui va être ourlée d'un petit peu de rose orangé. Et bien ça, donc la partie gris bleutée, c'est l'ombre de la Terre, donc c'est le cône d'ombre de la Terre qui se projette dans l'atmosphère de la Terre. Et au-dessus, la partie orangée, c'est la partie dans laquelle, depuis laquelle le soleil est encore visible. Donc si vous étiez en avion dans la partie orangée, vous verriez le soleil en train de se coucher, donc tout orangé. Voilà. Après, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit que les satellites, quand on suit un satellite dans le ciel la nuit, on peut le voir de temps en temps, il va traverser une partie du ciel, et puis d'un coup, hop, alors qu'il n'est pas encore arrivé à l'horizon, il va s'éteindre en quelques secondes, en une dizaine de secondes à peu près. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement qu'il n'est plus visible parce qu'il arrive dans le cône d'ombre de la Terre. Or, un satellite n'est visible qu'à condition qu'il soit éclairé, parce que bon, c'est pas parce qu'il y a des gens qui habitent à bord que c'est éclairé, hein. C'est pas comme une maison. Donc on les voit parce qu'ils sont éclairés par le soleil, donc à partir du moment où ils rentrent dans le cône d'ombre de la Terre, ils vont disparaître à nos yeux.
Pour revenir sur votre ouvrage, on rappelle, on va dire quand même le prix, puisque c'est une bonne idée cadeau en plus.
Oui, enfin, il y a des cadeaux. À la limite, c'est même presque pas assez parce que les gens vont se sentir peut-être vexés qu'on leur offre un livre qui ne vaut que 27,50 €, mais vous leur expliquerez que c'est un beau livre et qu'ils seront quand même très contents. Effectivement. Donc, le livre n'est qu'à 27,50 € pour 220 pages et surtout une qualité. Je parle pas encore des photos qui sont certes exceptionnelles, mais c'est surtout, voilà, Belin a réussi à, en faisant imprimer ce livre en France, hein, Cocorico. Ils ont vraiment, fait un très très bon suivi. Ils ont retravaillé les photos pour qu'elles soient optimisées pour l'impression. L'impression a été réalisée, donc, vraiment très très bien. et j'ai des photos qui sont même parfois, certaines photos sont parfois mieux à sur le bouquin que sur l'écran de mon ordinateur. Vous voyez, donc vraiment un très très bon travail qui a été fait. Donc pour ce prix-là, en effet, pour un beau livre, c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est un très bon rapport qualité-prix.
En effet, on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles, et comme le veut la tradition, eh bien l'invité donne le mot de la fin. Alors monsieur Lavedère, le mot de la fin pour conclure cette émission.
Je vais pas dire fin parce que ça fait un peu trop court comme mot de fin. Qu'est-ce que je vous dirais? Je vous dirais ben ouvrez les yeux, voilà. Levez les yeux au ciel, non pas pour montrer votre humeur, mais simplement pour découvrir tout ce qui se présente à nos yeux, hein, à portée d'œil, et que on se balade toute la journée sous le ciel. Excusez-moi, c'est pas un mot, c'est une phrase, c'est un chapitre, mais alors on se promène toute la journée avec le ciel au-dessus de notre tête, et bien si on prend la peine de lever les yeux de temps en temps, à condition de savoir ce qui s'y trouve, on va vraiment au fil des jours, enfin au fil de la journée, découvrir un tas de phénomènes qui s'y déroulent, quoi. Voilà. Donc levez les yeux.
On rappelle très vite donc l'ouvrage Le ciel, un jardin vu de la terre de Laurent Vadevert.
Aux éditions Belin, oui.
Voilà, pour 27,50 €. Et puis on rappelle rapidement aussi vos sites internet, les adresses.
Alors laurentlavedere.com et PixHaven, alors Heaven comme le ciel, donc le paradis, donc PixHaven.net.
Monsieur Lavedere, merci beaucoup d'avoir été présent à cette émission À toi les étoiles.
IDFM, 98FM.
Vous avez donc pu entendre la rediffusion de la 42e émission d'À toi les étoiles. Nous sommes revenus bien des années en arrière, puisqu'il faut savoir quand même qu'À toi les étoiles va célébrer à la fin de l'année 2024 son 20e anniversaire, et nous sommes revenus 16 ans en arrière. C'était le 21 mai 2008, l'invité était donc Laurent Lavedere, et nous avons parlé de son ouvrage « Le ciel, un jardin vu de la terre ». À savoir que les sites internet qui ont été donnés en fin d'émission sont toujours existants, n'hésitez pas à vous rendre dessus, et si vous souhaitez vous procurer son ouvrage, 16 ans plus tard, il est toujours disponible. Vous pouvez le retrouver sur internet ou encore dans les bonnes librairies. Et puis, sachez aussi que vous pouvez retrouver l'intégralité des 216 émissions À toi les étoiles sur mon site personnel. Pour cela, vous allez sur internet et dans le moteur de recherche, vous tapez « Le grenier sonore ». Je répète, « Le grenier sonore ». C'est un grenier où je range toutes mes émissions, donc « Le grenier sonore ». Et vous tomberez sur mon site personnel. N'hésitez pas. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente après-midi. Et je vous donne rendez-vous le troisième dimanche du mois de mai. Ce sera le dimanche 19 mai avec sans faute la présence de Roland Lehoucq, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Et nous parlerons de son ouvrage « Enquête scientifique au pays d'Hergé ». Et vous pourrez nous écouter par tous les moyens que nous vous proposons. Le 98 en FM, le DAB+, IDFM Radio ou encore l'application IDFM Radio ou encore le site internet www.idfm.fr. Bon dimanche à toutes et à tous. Profitez bien, reposez-vous bien et rendez-vous le dimanche 19 mai. Au revoir à tous et merci pour votre fidélité.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Explorez les mystères du cosmos avec Franck, votre guide céleste dans À toi les étoiles. Tous les troisièmes dimanches du mois, de 13h à 14h, plongez dans l'astronomie et l'astronautique. À toi les étoiles, l'astronomie à la radio, l'émission sérieuse mais jamais ennuyeuse, où les étoiles révèlent leurs secrets. Rendez-vous avec Franck le troisième dimanche de 13h à 14h. Parce que rêver d'explorer l'espace, c'est déjà commencer le voyage.